Chapitre 23. Passage. La chasse n'était jamais aisée dans la vallée de l'Oma, mais le territoire était assez grand, et la meute finissait toujours par trouver de quoi se nourrir. Deux à trois fois par semaine, chassant plutôt à l'aurore ou au crépuscule, les loups se partageaient une grosse proie, et parfois, on ajoutait entre ces repas quelques gibiers plus modestes. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que les loups s'étaient installés là, préservant leur territoire qu'ils marquaient régulièrement, partageant leur temps entre la chasse, le repos et les jeux. Petit à petit, les rapports et comportements sociaux au sein de la meute s'assuraient et se complexifiaient. Tous les membres de la bande se frottaient, échangeaient leurs odeurs comme pour assurer la cohésion du groupe. Taïbron et Imala, le couple dominant, ne cessaient de réaffirmer leur autorité sur les autres loups, tantôt en montrant les crocs, tantôt en dressant les oreilles ou simplement en fixant du regard leurs subordonnés. Parfois, les dominants donnaient des avertissements plus agressifs encore, ce qui évitait souvent d'en arriver à des combats violents. Les autres loups se soumettaient alors, rampant, détournant les yeux ou aplatissant les oreilles. Imala se montrait particulièrement dure avec l'une des louves, si bien que celle-ci devint presque le bouc émissaire de la meute. Non pas que ce fût la plus faible, elle était au contraire l'une des plus rapides et donc des plus capables pendant la chasse. Mais peut-être parce que Taïbron s'était plusieurs fois montré trop affectueux avec elle, la reniflant et la poursuivant tout le jour. Imala trouvait sans doute cette concurrente trop menaçante, et ainsi, elle lui réservait l'essentiel de son agressivité. Souvent, elle lui sautait dessus et lui mordait le museau, la tenant ainsi immobile pendant de longs et humiliants instants. La pauvre louve faisait de son mieux pour se soumettre, mais cela ne semblait pas provoquer la moindre pitié chez Imala, qui continuait d'affirmer son autorité avec hargne. Ainsi allait la loi du clan, et telle était la vie de la meute, de plus en plus forte, traversant la saison en construisant des liens solides et attendant qu'arrive l'hiver, quand les dominants pourraient enfin se reproduire. Puis, par un jour d'automne, la meute de la vallée de l'Oma fut confrontée à sa première épreuve véritable. Le soleil perçait péniblement à travers les nuages, illuminant çà et là les hautes herbes jaunes qui recouvraient la lande. La meute, comme souvent, était assemblée non loin de la rivière, autour d'un amas d'arbustes noueux dont les branches entortillées semblaient ramper sur le sol. À l'horizon se profilait la colline et ses pins épars. Quelques aigles survolaient la vallée, si haut dans le ciel que les bêtes, sans doute, ne les voyaient même pas. Puis à la fin de la matinée, alors que tous les loups étaient plongés dans un demi-sommeil, une autre meute fit irruption sur leur territoire. Imala fut la première à découvrir l'intrusion. Soudain, elle se dressa d'un bond et poussa des gémissements qui tirèrent les autres loups de leur torpeur. La meute de l'Oma se mit en branle, découvrant à leur tour les envahisseurs au loin. Mais très vite, ils découvrirent que ceux-ci étaient plus nombreux qu'eux. Sans doute une douzaine. Taïbron se mit à grogner, et la queue dressée, il partit brusquement vers la meute indésirable, suivi bientôt par les siens. Imala en tête. Ils se mirent à courir pour se rendre plus impressionnants, espérant sans doute effrayer les loups qui avaient osé pénétrer sur leur territoire. Mais ceux-ci réagirent aussitôt en montrant les crocs et en gonflant le dos, poils hérissés. La confrontation se fit à distance. C'était un jeu d'intimidation que la meute de l'Oma ne pouvait gagner, car même s'ils étaient sur leur territoire, les compagnons d'Imala étaient bien moins nombreux que les intrus. Ceux-ci toutefois ne s'éternisèrent pas à cet endroit de la vallée. Ils se remirent en marche, et voyant qu'il n'y avait aucun gibier alentour, se dirigèrent vers le flanc opposé. Comprenant que la menace s'écartait, Taïbron et les siens retrouvèrent leur calme et rebroussèrent chemin, se retournant régulièrement pour vérifier que les autres ne revenaient pas à la charge. Ils s'assemblèrent de nouveau près de la rivière, mais restèrent sur leur garde, nerveux, surveillant la meute étrangère qui avançait encore en lisière de leur territoire. Il y eut quelques allées et retours, les intrus s'entêtant sans doute à trouver un nouveau terrain de chasse, puis ils disparurent pour de bon. Mais Taïbron, un peu plus tard, se remit en marche, oreilles rabattues, frôlant le sol comme s'il était en chasse. Il avait senti quelque chose. Imala partit derrière lui, bientôt suivi de Tamaran, le loup borgne. Tous trois approchèrent lentement de la frontière de leur territoire où les loups indiscrets étaient restés quelque temps. Ralentissant le pas, ils se faufilèrent à travers les hautes herbes jaunes pour découvrir enfin le loup qui était resté là. Un jeune mâle imprudent, qui semblait vouloir s'attarder sur leur territoire alors que le reste de sa meute avait disparu depuis longtemps. Kathleen arrêta son cheval sur le côté pour laisser passer les soldats de la terre et le reste du convoi. Ils marchaient d'un pas rapide, portés par leur foi en Aléa. Et plusieurs adressèrent à l'actrice un sourire plein de respect, sans doute parce qu'elle était une amie du Samil Danak. Cela suffisait, semblait-il, pour mériter leur admiration. Le matin, Aléa avait annoncé qu'il devait à présent rejoindre Tarnéa, la capitale du comté de Sar. Là-bas, elle espérait monter une armée plus grande et trouver une légitimité politique nouvelle pour tenter de résoudre enfin les différents conflits de l'île. Mais cela n'allait pas être simple. Quand les derniers soldats furent passés, Kathleen aperçut enfin Aléa, qui restait toujours à l'arrière, pendant qu'Erwan, au contraire, ouvrait la marche de la petite armée. « Pourquoi tiens-tu à ce point à rester derrière tout le monde ?» demanda Kathleen en amenant son cheval juste à côté de celui de son ami. La jeune fille haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être parce que ça me permet de voir tout le monde sans avoir besoin de me retourner tout le temps. Et puis aussi parce que je ne suis toujours pas très à l'aise avec mon image de chef et que rester devant me rappelle continuellement que c'est moi que tous ces gens suivent. » Kathleen acquiesça en souriant. « D'accord, je vois. Mais cela t'oblige aussi à être loin d'Erwan, puisque c'est lui qui ouvre la marche. » « Et alors ?» répliqua Aléa. Kathleen éclata de rire. « Comment ça, et alors ? Allons, je vous ai entendu hier soir. » Le visage d'Aléa vira aussitôt au rouge écarlate. Elle n'avait pas l'habitude de parler de ce genre de choses et n'avait pas particulièrement envie de commencer aujourd'hui. Elle ne savait vraiment pas que répondre et ce temps mort devenait de plus en plus gênant. Kathleen, amusée, décida de mettre fin aux souffrances de son amie en brisant le silence. « Allons, vous me faites rire, vous autres Gaéliens, avec votre pudeur. Il n'y a rien de plus beau que l'amour et vous refusez d'en parler comme s'il s'agissait d'une chose horrible. » Aléa se mordit les lèvres. Elle hésita un instant, puis elle se résigna à parler. « Tu sais, je ne suis jamais tombée amoureuse avant. » Et puis je me souviens que Faïs elle-même était gênée quand on lui parlait de Galiad. C'est bien ce que je dis, vous êtes ridiculement délicat. Parce que vous, les cheminants, vous parlez d'amour librement ? S'étonna Aléa. Bien sûr, répliqua Kathleen en haussant les épaules. Tu sais, la vie dans les roulottes et sur les routes ne laisse pas beaucoup de place au secret et à l'intimité. Alors tout finit par se savoir, si bien qu'on a aussi vite fait de se livrer. Et puis, il vaut mieux être un amoureux fier qu'un amoureux honteux. D'accord. Alors dans ce cas, parle-moi de Fingin, provoqua Aléa. Le problème, c'est qu'en la matière, les druides sont les pires de tous les Gaéliens, répondit la comédienne d'un air désolé. Fingin ose à peine me donner la main, tu sais. Alors je n'ai pas grand-chose à te raconter, malheureusement. Eh bien, te voilà bien parti. Oh, ce n'est pas bien grave, je ne suis pas pressée. « Nous avons tout le temps devant nous, et je crois que Fingin a l'esprit bien assez occupé comme ça. En revanche, toi, tu ne perds pas de temps, » se moqua encore l'actrice. Et cette fois, Aléa se mit à rire elle aussi. « Je me fie à mon instinct. C'est ce que vous autres cheminants appelez « suivre le chemin de la Moira », non ?»« Bonne excuse, » railla Kathleen. « Erwan et moi avons vécu tant de choses incroyables que j'ai l'impression de le connaître depuis 10 ans. »« Je comprends. Et puis, son père semblait favorable. »« Nous le sommes tous, Aléa. Vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est évident. Allons, je te taquine. Vous êtes merveilleux ensemble. »« Je ne sais pas, c'est très nouveau pour moi. Mais après tout, depuis que j'ai quitté mon village, tout est nouveau pour moi. » C'est ça, le plaisir de la route, Aléa. Découvrir chaque jour des choses nouvelles. C'est pour ça que nous autres cheminants ne la quittons jamais. Aléa acquiesça. Elle appréciait ces moments où l'actrice venait la voir. Cela lui rappelait son amitié avec Amine, un lien qui lui manquait. Et elle savait maintenant qu'il fallait apprécier chacun de ces instants, qu'aucune amitié n'était acquise ou éternelle. Pourtant, parfois, Sarah Théa me manque, avoua-t-elle. Son calme, les habitudes que j'avais prises là-bas, des repères que je n'ai plus. Si nous allons vers Tarnéa, ne passerons-nous pas tout près de ton village? Il y a des chances. Tu n'auras qu'à y faire une pause, suggéra Kathleen. Je ne sais pas. Cela me fait un peu peur. C'est idiot. Tu viens de dire que ton village te manque. Tu devrais au moins y passer. Pourquoi pas? J'ai d'ailleurs quelques questions à poser à certains villageois. Et j'aimerais vraiment comprendre comment je suis arrivée là-bas. Et comment Félim m'a retrouvée. Bien sûr. En tout cas, je serais curieuse de voir ce village où tu as grandi. Oui. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'y aller tout de suite. On verra. Les deux jeunes filles échangèrent un sourire. Puis elles se turent, partageant simplement le plaisir d'être l'une à côté de l'autre. La route allait être longue, elles auraient encore bien des choses à se dire. La cérémonie, finalement, eut lieu derrière le palais de Providence, au pied de la tour de l'Aurilien, là où la reine avait fait transplanter le chêne centenaire de Saïmina. Depuis plusieurs jours, les quatre grands druides, mais aussi 32 druides, leur magistèle et de nombreux serviteurs, s'était installé dans la haute tour qui fermait au sud le parc triangulaire du palais. À la hâte, les jardiniers avaient reconstitué une cour circulaire au milieu de laquelle se dressait l'arbre de légende et 8 sculpteurs royaux l'avaient entouré des 13 trônes symboliques. À l'intérieur de la tour, on avait aménagé 12 grandes suites, plusieurs chambres, des dortoirs et au sommet, une grande pièce où pourrait se réunir le conseil. L'ensemble ne bénéficiait bien sûr pas encore de la décoration luxueuse de Saïmina, mais on était allé à l'essentiel, et la main-d'œuvre ne manquerait pas plus tard pour faire de la tour un bâtiment aussi prestigieux que le méritait son statut. Tout était prêt pour supplanter le véritable palais des druides. On avait invité les principaux notables de la ville, les grandes familles, les généraux. L'essentiel de la cour de la reine était là, mais aussi des ambassadeurs de Sarre et de Bizagne, quelques bardes, quoique la plupart fussent encore fidèles à Saïmina et eussent refusé l'invitation, et de simples citoyens du royaume. Les décors d'habitude réservés aux fêtes de Lugnasad avaient tous été utilisés pour orner cette partie du palais, ainsi qu'une intendance hors du commun, tentes, tribunes, tables, loges, parquets. Jamais aucune cérémonie druidique n'avait été célébrée devant tant de monde, avec tant de publicité. Mais c'était la direction que la reine souhaitait donner au nouveau conseil. Elle voulait lui offrir un prestige populaire sans précédent. Il n'y avait d'ailleurs plus assez de place dans les tribunes et les allées de fauteuils, si bien que les habitants de Providence s'étaient amassés sur l'herbe, assis les uns à côté des autres, prêts à admirer le spectacle, impatients. Et le soleil ne manqua pas le rendez-vous. Un peu avant la mi-journée, le cortège apparut enfin dans une lumière exceptionnelle pour la saison. Les quatre grands druides avançaient en cercle, vêtus de leur long manteau blanc, le crâne rasé, le bâton dans la main droite, escortant la reine vêtue de la robe verte des vattes. Ses longs cheveux blonds noués derrière la nuque, elle était resplendissante et grave à la fois. Cherchant dans chaque pas un peu de noblesse, dans chaque geste, une grâce nouvelle. Au-dessus d'eux, les 32 druides tenaient au bout de leur bâton une grande toile de lin blanche, garnie de gui, qui, tendue, faisait comme un toit souple et léger. La procession avança lentement à travers la cour, sous le regard médusé des spectateurs, et vint s'arrêter au pied du grand chêne. Alors la cérémonie commença. On parvenait à peine depuis les tribunes à entendre les paroles des druides, qui n'étaient que murmures rituels. Mais on pouvait voir chaque geste, chaque déplacement de cet étrange opéra. D'abord, on escorta la reine dans une petite tente en retrait où elle disparut seule. Ensuite, au pied du chêne, 8 druides furent nommés grands druides pour porter à 12 le nombre des leurs au nouveau conseil. Recevant le sacre de leurs aînés, ils se prosternèrent et écoutèrent les secrets qu'on leur confiait à l'oreille. car ainsi se transmettait la tradition. Puis tous les regards se tournèrent vers la petite tente où attendait la reine. Ce qui allait se passer était une révolution historique. Pour la première fois, une femme allait être initiée au rang de druide, et plus incroyable encore, prendre aussitôt la place suprême du conseil, le siège d'archidruide. Mais les temps avaient changé. Le peuple de Galassie ne s'étonnait presque plus de ces bouleversements soudains. Enon, drapé de blanc, le visage enfoui sous une capuche rituelle, s'approcha de l'entrée de la petite tente et souleva le voile qui la fermait. Les paroles sacrées étaient comme portées par le vent. Le silence pesant des tribunes immortalisa l'instant.
« Qui es-tu ?»«
Envat, » répondit la reine prosternée devant lui. Enon posa une main sur l'épaule d'Amin. Ses gestes étaient lents, hésitants presque. On ne parvenait pas à dire si c'était une lenteur solennelle ou si le grand druide rechignait à initier la reine. Un peu des deux, peut-être.
« Que veux-tu ?»«
La lumière, » répondit Amin d'un ton sûr.
« As-tu fortifié ton âme dans la solitude de ce lieu ?»«
Oui. »«
Alors tu peux me suivre, Vat. »
Amin enleva ses sandales et, conformément à la tradition, marcha pieds nus à côté du grand druide qui, une main posée sur son épaule, la menait vers le cercle des 13 trônes. Quelques bardes tenaient à l'ouest le rôle des sonneurs, accompagnant le rituel de leur harpe triste. Enon et Amin arrivèrent alors derrière les deux druides qui les attendaient, tenant chacun dans ses mains une partie d'une épée brisée. Le petit cortège se mit en marche, à travers la foule des invités, et s'arrêta devant la pierre polie où l'on avait disposé du pain et du sel. Enon lâcha l'épaule de la reine, se baissa, saupoudra le sel sur le pain et tendit l'ensemble à la jeune femme.
« Vat, ce pain et ce sel sont la terre par laquelle tu meurs et peux renaître. »
La reine prit le pain et en mangea la moitié, selon la coutume, puis elle reposa le reste sur la pierre avant de se remettre en route. La procession continua de tourner autour du cercle des trônes, puis s'arrêta au nord devant une deuxième pierre polie. Enon prit la coupe d'eau qu'on avait préparée là et la tendit à la reine.
« Vat, voici l'eau qui te purifie. »
Amin prit le récipient et commença à boire, mais elle ne finit pas la coupe, qu'elle reposa à moitié pleine sur la pierre, croyant répéter ainsi le geste de reconnaissance du sel et du pain. Il y eut un léger murmure parmi les druides, que la reine sembla ne pas entendre. Mais Enon se remit en route, comme si rien ne s'était passé. Il savait, bien sûr, que la reine aurait dû boire la coupe tout entière, que le rituel indiquait ainsi que la purification du récipient d'air était complète. N'importe quel jeune druide n'aurait pas commis cette erreur. Mais Amin, elle, n'avait pas passé 7 années à comprendre la symbolique de l'ordre. En quelques jours, elle n'avait pas pu rattraper son retard. Elle avait certes tout fait pour apprendre et même comprendre le rituel de sa propre initiation, mais faute de temps, elle commettait là sa première erreur. Enon, pourtant, ne jugea pas bon de la corriger. Soit parce qu'il avait peur de vexer la reine, soit parce qu'il estimait que cette erreur n'était que justice et que le symbole même d'une purification effectuée seulement à moitié l'amusait. La reine était parvenue à forcer les druides à l'accepter dans leur ordre. Enon en gardait une forme de rancœur qui trouvait là une première vengeance satisfaisante. Il continua le rituel sans rien dire, et tous les autres druides comprirent sans doute le message que leur adressait Enon. La reine était initiée malgré lui. Il ne pouvait plus rien faire pour empêcher ce sacrilège, mais il ne ferait rien non plus pour l'aider dans sa démarche. Enon, la tête droite, escorta la reine jusqu'à la dernière pierre, au sud du cercle des trônes. Il décrocha la torche qui était fixée au-dessus de cette dalle et la tendit à Amin.
« Vat, voici le feu qui t'éclaire. »
La reine prit la torche à deux mains, puis elle suivit Enon jusqu'au centre du cercle, marchant à présent sur la grande toile de lin blanc qu'on avait posée à terre, couverte de gui.
Le conseil n'ayant pas encore nommé son archidruide, c'était Tiernan qui siégeait au pied du grand chêne.
« Grand druide, » déclara Aenon en s'inclinant solennellement. « Je te présente Amin, Vat, que nous avons jugé digne de devenir druide. »
Tiernan acquiesça, puis se dressant, demanda
« Y a-t-il la paix ?»
Druides et grands druides répondirent en chœur.
« Il y a la paix !»
Alors, reprit Tiernan, « puisqu'il y a la paix, nous allons procéder. »
Aenon recula, abandonnant la reine, seule sur le drap de lin, face à Tiernan. Tous les regards étaient tournés vers elle, dans la petite assemblée de druides comme au loin, dans les tribunes et sur les pelouses.
« C'est au nom de la Moïra, Vat Amin Salia, que nous te demandons à présent si, élevé à la fonction sacrée de druide, tu en exerceras les pouvoirs exclusivement pour ce qui te semblera être le vrai bien. »
La reine ne put contenir un sourire.
« De tout mon cœur, je m'efforcerai de le faire, » répondit-elle avec assurance.
Tiernan continua.
Promets-tu de te souvenir, avec l'aide de la Moïra, qu'en cette fonction à laquelle tu es appelé, tu auras le devoir absolu et devras avoir le souci constant de donner l'exemple d'une vie saine à tous ceux qui te seront confiés.
Je le promets.
Promets-tu de garder précieusement comme un dépôt sacré le pouvoir qui te sera conféré?
Je le promets, répéta la reine, et dans ses yeux brillait une lueur nouvelle.
Promets-tu de te tenir constamment prêt à...
Tiernan se rendit compte de son lapsus. Les rituels des druides étaient toujours au masculin. Il se reprit aussitôt, lançant un regard embarrassé à Aenon, en retrait.
De te tenir prête à servir tous les hommes autant que tu en es capable.
Je le promets, répondit Amin en fronçant les sourcils.
Que nos ancêtres te gardent, sœur bien-aimée, et qu'ils te fortifient dans ta dignité.
La reine resta immobile un instant. Lentement, elle tourna la tête pour voir sur sa gauche la figure de Aenon. Il la dévisageait. Mais c'était elle qui avait gagné. Elle obtenait enfin ce que l'ordre lui avait toujours refusé. Ce que l'ordre avait toujours tenu à l'écart des femmes. Et la fierté illuminait son visage. Puis, alors que l'assistance tout entière attendait cet instant, elle se mit enfin à genoux.
« Tu pourras maintenant enseigner, en toute responsabilité, ce que tu jugeras bon d'inculquer à ceux que tu estimeras en toute conscience dignes de recevoir cet enseignement. La responsabilité de toute divulgation devient tienne. Tu es délié du secret. »
Tiernan avança et leva ses mains au-dessus de la tête baissée de la reine.
« Moi, Aldir Mornak, fils de Naitsu, dit Stan le barde, dit Tiernan le druide, grand druide au cercle sacré de l'Aurélien, j'élève devant les Gaéliens sa sérénité Amin à la dignité de druide. En l'honneur de ce degré et parce que ses maîtres disent d'elle qu'elle est une femme juste, elle sera appelée Aislinn la druidesse par ses frères et par tous les hommes. Que la Moïra te protège. Aislinn. »
Tout le monde applaudit aussitôt, druides et profanes réunis, acclamant la reine dans son nouveau statut. Alors la main de Tiernan se posa sur le front d'Amin, et lentement, le Saïman pénétra son esprit. La foule vit alors Amin tomber à la renverse, comme si elle avait reçu un choc invisible et perdu connaissance. Aidée par Tiernan, elle se releva lentement, chancelante, et le grand druide lui tendit un manteau blanc et un bâton de chêne.
Tu es une druidesse, Aislinn. Allons, ceci est à toi.
Reprenant ses esprits, Amin accepta cette offrande. Ses mains tremblaient, mais ses yeux, eux, restaient fixes. Elle avait gagné, et cela ne faisait que commencer. Dans un instant, les druides, ceux qui l'avaient longtemps rejetée, allaient lui offrir la place d'archidruide. À elle, Amin Salia, petite fille de Saratea. Plus rien n'était impossible. Imala, Taïbron et Tamaran s'approchèrent lentement du jeune loup imprudent. Le vent masquait légèrement le bruit de leurs pas. La louve blanche obliqua vers l'ouest, s'écartant des deux mâles pour couper la route à l'ennemi s'il tentait de fuir vers la colline où sa meute était partie un peu plus tôt. Le jeune loup sentit très vite le danger, mais il ne voyait pas ses ennemis. Plutôt que de s'enfuir pour rejoindre les siens, il se dressa sur ses pattes avant et scruta l'horizon pour trouver d'où venait la menace. Il avait entendu quelques bruits et sentait l'odeur des trois autres loups, mais pour l'instant, il ne voyait rien. Il commença à pousser quelques gémissements d'inquiétude et à reculer. Mais il était dos à la pente et pas dans la meilleure posture. À présent, il était seul, en territoire ennemi, et les siens étaient sans doute trop loin pour venir lui porter secours. Soudain, Taïbron surgit de derrière un buisson et plongea vers le jeune loup. Tamaran lui emboîta le pas. Le loup, effrayé, fit un bond de côté, évitant l'assaut de justesse, puis sans se retourner, se mit à reculer pour s'éloigner de ses deux attaquants. Au même instant, Immala fit irruption à son tour, et cette fois-ci, le jeune loup n'eut pas le temps de réagir. Quand il aperçut la masse blanche qui lui tombait dessus, il était déjà trop tard. Immala le saisit à la gorge et, beaucoup plus lourde que lui, le fit ployer sous elle. Le jeune loup s'écroula, puis roulant sur le côté, parvint à se débarrasser des crocs de la louve blanche. Taïbron et Tamaran en profitèrent pour renouveler leur attaque et, dans un concert de grognements féroces, fondirent sur le jeune loup. Il se retrouva de nouveau au sol et ne put cette fois se débarrasser de ses assaillants. Bientôt rejoint par Immala, les loups ne témoignèrent aucune pitié et achevèrent l'animal de quelques coups de croc. Il poussa un dernier hurlement strident et mourut, la gorge déchiquetée. Alerté par les bruits de ce combat féroce, le clan du jeune loup revint sur les lieux. Mais quand ils arrivèrent devant le cadavre de leur compère, la meute de Taïbron s'était elle aussi regroupée, et cette fois-ci, Immala et les siens se montraient beaucoup moins conciliants. Confortés par leur victoire, excités par le sang, ils étaient prêts à se battre, et l'autre meute dut le sentir, car cette fois, elle n'osa pas franchir les frontières du territoire. Il y eut quelques échanges de grognements, puis les intrus rebroussèrent chemin, abandonnant là le cadavre de leur ancien frère. Taïbron poussa un hurlement plein d'assurance, bientôt rejoint par le reste du clan, puis ils retournèrent la queue haute en bas de leur vallée. La jeune meute avait finalement passé sa première épreuve avec succès. Dorénavant, les autres loups ne s'aventureraient plus aussi facilement sur leur territoire. Mais l'avenir, sur les terres de l'île, réservait bien d'autres surprises aux frères d'Immala. Pour la première fois depuis le départ, tous les compagnons d'Aléa se retrouvèrent après le dîner. La jeune fille avait insisté pour que chacun se débarrasse au plus vite de ses tâches afin que cette réunion puisse avoir lieu. Autour de la grande table, en dehors de Tagor que nul n'avait encore eu le temps de découvrir vraiment, tous savouraient l'amitié profonde qui les unissait. Une chaleur inexplicable, une énergie forte que rien ne pouvait arrêter. Dans l'humour, dans les moqueries ou dans la tendresse, partout l'on retrouvait une intimité, résultat de souvenirs partagés. Les menaces des ennemis pourtant nombreux étaient encore loin, beaucoup moins présentes que par le passé. La bonne humeur semblait présider au rapport de ses jeunes compagnons. Mais à la fin du repas, Aléa prit la parole, et il n'était plus question d'amusement. « Nous devons trouver le moyen le plus rapide d'aller à Tarnéa. Or, si nous contournons les montagnes par l'est, en continuant dans notre direction actuelle, nous risquons de passer très près de Providence, ce que je veux éviter à tout prix. »«
Tu n'espères quand même pas faire passer tous les hommes par la montagne ?»
intervint Erwan. « J'espère que nous aurons une autre solution, mais s'il le fallait, je crois que je préférerais encore ça plutôt que de passer par Providence. »«
Pourquoi ?»
s'étonna Mjoln. « Parce que je veux aller dans le comté de Sar avant de voir Amine. Avant de voir qui que ce soit. »«
Les chrétiens d'Harcourt pensent sûrement la même chose que toi, » intervint Fingin. « À mon avis, il y a de grandes chances que les Harcourtois soient déjà en route pour la Sar, eux aussi. »
C'est pour cette raison que nous devons atteindre Tarnéa au plus vite, répondit Aléa.
Ça y est!
S'exclama Mjoln.
Ça recommence!
On va se remettre à courir comme des chiens sauvages.
Si nous ne pouvons pas passer par l'est, ni escalader les montagnes, je ne vois pas comment nous pourrions faire, fit remarquer Erwan. Nous n'allons quand même pas rebrousser chemin et contourner la chaîne par le sud-ouest.
Ce serait en effet une perte de temps ridicule, reconnut Aléa.
Je ne suis pas sûre, ça non, que nous irions beaucoup plus vite en escaladant la montagne,
ajouta Mjoln.
Je suis montée là-haut, moi, et moi je sais, oui, combien il est long d'y grimper, combien il fait froid et comme on a faim. Je n'en garde pas que de bons souvenirs, ça non.
Aléa posa une main sur le bras de son petit compagnon. Elle se souvenait de cette histoire qu'il lui avait jadis contée, preuve s'il en fallait que le nain avait bien plus de courage que ses propos ne le laissaient souvent paraître.
« Les Toatanes pourraient sans peine franchir la chaîne de montagne, » affirma Tagore.
« Je n'en doute pas, mon frère, mais nous sommes trop nombreux et tous ici n'ont pas l'endurance de ton peuple. »
Kathleen leva la main pour attirer l'attention des convives.
« Nous autres, enfants de la Moïra, racontons souvent que nos ancêtres passaient en dessous de Gordraka, par les cavernes des dragons. »
Tous tournèrent des yeux médusés vers la jeune actrice.
« Allons, reprit-elle, ne me regardez pas comme ça. Je vous signale que les dragons sont tous morts depuis longtemps. »
« Pas si longtemps que ça, » intervint Fingin. « C'est le père d'Erwan qui a tué le dernier d'entre eux. »
« Vraiment ?»«
Ce n'est pas la question, » intervint Erwan,
qui pourtant portait à la taille Bantral, l'épée que son père avait précisément enlevée de la queue du dernier dragon.
« Kathleen, penses-tu que cette caverne existe vraiment, ou bien n'est-ce qu'une légende ?»
Kathleen haussa les épaules.
« Non !»
intervint Mjoln, grognon.
« Ce n'est... non !» Pas une légende. Moi aussi j'ai entendu cette histoire. Tada. Mais alors là, je vous préviens, ça, il est hors de question que vous m'emmeniez là-dedans.
Aléa tourna la tête vers Fingin. Elle le regarda en souriant.
Qu'est-ce que tu en penses, Druide?
Je pense comme toi, avoua-t-il.
Ah oui? Et que pensais-je, moi?
Si ces cavernes existent, et si vraiment elle traverse la montagne de part en part, alors nous pourrions gagner un temps précieux.
John poussa un soupir d'exaspération, mais ses amis ne semblaient pas y prêter attention.
Rien ne nous dit, si elles ont vraiment existé, que ces cavernes sont encore praticables aujourd'hui,
tempéra Kathleen.
Ça, c'est sûr, et peut-être grouille-t-elle aussi de créatures immondes,
enchaîna John.
Oh, la dernière fois que vous m'avez emmené dans un souterrain, ça, j'ai failli y perdre la vie, n'est-ce pas? Et ma barbe est devenue blanche. Non, non, pas fou dans ma tête, pas un pied sous la montagne, moi. Je vais retourner tout seul dans mes collines si ça continue.
Erwan, demanda Aléa, comme si elle n'avait pas entendu les plaintes du nain.
Dans la balance, les risques m'ont l'air beaucoup plus élevés que les chances de gagner réellement du temps.
Je pourrais envoyer des éclaireurs de mon peuple, suggéra Tagor. Nous avons l'habitude de vivre sous terre. Nous irions beaucoup plus vite.
Plus vite, oui, accorda Aléa. Mais toujours pas assez, car pour être certain que le risque vaut la peine d'être pris, il faudrait s'assurer que les cavernes vont bien d'un bout à l'autre de la montagne, et cela obligerait tes éclaireurs à faire un aller et retour complet.
Le Toatan acquiesça. Aléa poussa un long soupir. Allait-elle devoir encore faire un choix pour tout le monde? Imposer sa volonté?
Il y a peut-être un autre moyen, proposa Fingin.
Il fut décidé que le jour de la conversion de Merian de Mor le Bel, comte de Terre Brune, Aeditus consacrerait aussi la première pierre de la cathédrale qu'on allait construire au cœur même de Méricourt. La pierre fut amenée de Rhia, prise sur le parvis de sa première église, car ainsi on signifiait la communion entre ces deux lieux saints. La Terre Brune avait retrouvé l'espoir après le départ des Toatanes, et le comte Mor, comme l'avait prévu Alroeg, revenait en héros sur ses terres. De village en village, on l'acclamait, et personne ne manifesta la moindre gêne en voyant à ses côtés l'évêque d'Harcourt, ses symboles chrétiens,
et les nombreux prêtres qui l'accompagnaient. Ce dieu unique s'était montré beaucoup plus clément que la Moïra envers le peuple de Terre Brune. Et il était déjà en train d'entrer dans les mœurs des habitants du comté, sans même que Mériande ait besoin d'imposer quoi que ce fût. Le jour du grand baptême, la plupart des habitants de Méricourt se retrouvèrent donc autour du site qui avait été choisi par le comte pour faire construire la première cathédrale. Un peu avant la tombée du jour, la cérémonie commença en plein air. Il y avait au centre du chantier plusieurs prêtres d'Harcourt qui allaient officier en Terre Brune pendant les prochains mois, les proches du comte, quelques combattants qui s'étaient illustrés dans les derniers combats, et le maître d'œuvre de la cathédrale. On avait fait creuser un bassin à l'endroit précis où se trouverait plus tard l'autel. Des parfums avaient été répandus et l'on alluma de nombreux cierges autour du lieu. Aeditus, vêtu d'une aube mauve et portant sa mitre épiscopale, s'adressa à la foule d'une voix haute et forte.
« Vous êtes bienvenus, frères et sœurs. L'Église vous accueille avec joie, vous. » Et celui qui a demandé le baptême, afin qu'il reçoive ce signe de la grâce de Dieu, et qu'il soit accueilli dans l'Église de Jésus-Christ. Avant que nous le cherchions, Dieu est déjà près de nous. Avant que nous puissions lui répondre, déjà il nous appelle par notre nom. Le baptême est le signe de ce Dieu qui vient à notre rencontre.
Aeditus jeta un coup d'œil à l'assemblée gigantesque. Il savait l'importance de cet instant. Tout un peuple, peut-être, se convertirait après le comte. Il chercha des signes d'adhésion dans le regard des Brunois, mais pour l'instant, il n'y avait que de la curiosité, et l'impatience, sans doute, de voir avancer Mériande Mort le Bel.
Trop longtemps notre peuple a été trompé. Nous attendions, aveugles, une Moïra qui ne voulait pas venir. Était-elle là quand l'ennemi est venu à nos portes? Quel signe nous a-t-elle donné quand nous étions dans le doute? Mais notre Dieu, lui, vient vers nous chaque fois que nous sommes en détresse, vers chacun de nous, et c'est ainsi qu'il faut porter son message. Écoutons ce texte de l'Écriture qui nous rappelle le sens du baptême auquel nous allons procéder aujourd'hui. Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approcha d'eux et dit: « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Comme Dieu a dit au Christ, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aujourd'hui, il déclare à votre compte, « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom, je t'aime d'un amour éternel. »
Aeditus tendit la main vers le comte. Mériande remonta la longue allée autour de laquelle s'étaient amassés les citoyens de Méricourt. On avait installé au-dessus du trajet des tentures de couleur. Il avança dans l'ombre vers l'évêque Aeditus, qui l'attendait devant le bassin. Quand il fut devant lui, il posa un genou au sol et se prosterna. Aeditus reprit la parole.
« Courbe doucement la tête, Mériande Mort le Bel. Dépose humblement tes colliers. Adore ce que tu as brûlé. Brûle ce que tu as adoré. »
Le comte retira ses bijoux et ses vêtements. Alors, posant une main sur son épaule, Aeditus le guida vers le bassin. Mériande, torse nu, marcha jusqu'à ce que l'eau lui arrive à la taille. Aeditus, qui l'avait accompagné dans le bassin, prit de l'eau au creux de ses mains et la fit couler sur le front du comte.
« Que Dieu te bénisse et te garde. » Qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne, et qu'il t'éclaire de sa lumière et de son amour. »
Mériande ferma les yeux pendant que l'eau glissait sur son crâne. Il était sincèrement ému et se laissa transporter par la beauté de ce geste qui lui paraissait si pur. Quand ils sortirent du bassin, Aeditus vit dans le visage des hommes et des femmes rassemblés qu'il avait gagné. Le message d'amour qu'il prêtait à son Dieu avait parlé aux Brunois, Ceux-ci, qui s'étaient sentis abandonnés de la Moïra, retrouvaient un espoir nouveau, un dieu qui leur tendait la main. La foule acclama le comte, et Aeditus fit alors un grand signe de croix en sa direction. Il n'y avait pas d'armée plus forte que celle qui pourrait naître des prochaines conversions. Comme il avait mené le peuple d'Arcour au combat, c'était aussi au nom de Dieu qu'il soulèverait la terre brune. Et un jour, sûrement, la Gaëlia tout entière. Quand le chasseur entra au milieu de la soirée dans cette petite auberge du sud de la Galatie, tous les clients se turent et le dévisagèrent, bouche bée. Outre les traces de sang sur son visage et ses vêtements, il avait une allure étrange. Entièrement vêtu de cuir, il portait dans son dos un long arc en bois et un carquois empli de flèches, en bandoulière un grand sac de toile brune, et l'on peinait à voir son visage, enfoui sous une épaisse capuche verte. Mais le plus étonnant n'était ni ses vêtements, ni son visage. Non, ce qui surprenait vraiment les clients de cette petite auberge était tout autre chose. Sur ses épaules, l'inconnu portait le cadavre lourd d'un grand loup gris. La fourrure poisseuse, maculée de sang, collait contre sa veste de cuir. Les pattes épaisses pendaient le long de sa poitrine, et la tête ballottait au bout du cou tordu de l'animal. Une fois la surprise passée, l'aubergiste se dirigea vers l'étranger en fronçant les sourcils.
« Dites, vous allez me laisser ça dehors, hein, parce que sinon vous allez me faire des taches partout !»
En arrivant près du chasseur, l'aubergiste réalisa que celui-ci était encore plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il s'arrêta à quelques pas du molosse, se demandant s'il avait bien fait de lui parler ainsi. L'inconnu renifla bruyamment, posa un regard circulaire sur les clients de l'auberge, puis fit deux pas en arrière. D'un coup de rein, il rouvrit la porte de l'auberge derrière lui, mit un pied dehors, se pencha légèrement et laissa tomber l'animal à côté de l'entrée. Le corps ensanglanté s'écrasa avec bruit sur le sable, comme un grand sac de terre. Puis le chasseur entra de nouveau dans l'auberge et partit s'asseoir seul à une table. L'aubergiste avala sa salive, puis s'approcha de cet étrange client.
« Merci. Je vous sers quelque chose à boire ?»
Il ne parvenait toujours pas à voir le visage de l'étranger. Son épaisse capuche plongeait sa tête entière dans l'ombre.
« Sers-moi ton meilleur vin !» dit finalement le chasseur en posant les deux mains sur la table.
Petit à petit, les autres clients de l'auberge se remirent à parler, s'habituant sans doute à la présence de ce personnage singulier. Mais il y avait là un jeune fermier galatien, dont la curiosité avait été bien trop piquée pour qu'il se résolve à s'occuper lui aussi de ses affaires. Il se leva et partit vers l'étranger, sous le regard inquiet des autres villageois.
« Je peux m'asseoir avec vous ?» demanda-t-il en montrant la chaise en face de la sienne.
Le chasseur leva lentement la tête. Ses yeux apparurent enfin dans un rayon de lumière. Deux yeux marrons, comme le cuir de ses vêtements. Puis ils disparurent de nouveau dans l'ombre de sa capuche.
« Je vous en prie. »
Sa voix était grave et rauque, mais il parlait avec élégance. Son accent était pur, comme celui des druides ou des nobles de Galatie. Le jeune fermier s'assit en face de lui et posa sur la table la timbale pleine de vin qu'il avait gardée dans sa main. Il but une gorgée, puis fit claquer sa langue contre son palais. Il essayait de paraître détendu, même si, au fond, le chasseur l'impressionnait grandement.
« C'est un lot ?» demanda enfin le jeune homme, en faisant un geste du menton vers la porte de l'auberge.
« confirma l'inconnu.
« Vous chassez les loups ?»«
Oui. »«
Pourquoi ? Vous les mangez ?»
L'autre fit non de la tête.
« Pour la prime, » expliqua-t-il.
« Quelle prime ?»
Le chasseur soupira.
« La prime, » répéta-t-il. « Vous n'avez pas entendu parler des louveteries ?»«
Non, » avoua le jeune fermier.
L'étranger se frotta le visage. Il avait du sang et de la terre sur les mains. Il sentait mauvais et respirait bruyamment. Et pourtant, il y avait quelque chose de noble dans son attitude. Il prit la timbale que l'aubergiste, revenant de la cuisine, lui tendait d'un air méfiant.
Il but une gorgée, puis posa le récipient sur la table.
Plusieurs seigneurs de Galatie et même de Terre Brune ont ouvert des louveteries, comme il y en avait sur cette terre au temps des Brithians.
En quoi cela consiste?
Les louvetiers organisent des chasses, et ils offrent une pièce d'or pour un louveteau, 2 pièces pour une louve, et 4 pièces pour un loup adulte. Cet hiver, on dit qu'ils offriront 5 pièces pour une louve pleine.
Mais pourquoi ces seigneurs paient-ils pour qu'on leur apporte des loups?
Comment ça, pourquoi? Le loup est une bête carnassière et féroce. Il est le premier ennemi de l'homme et des bestiaux.
Bah, il suffit de mettre des chiens avec les troupeaux, protesta le jeune fermier. C'est ce que nous faisons ici, et les loups n'attaquent jamais nos bêtes.
Parce qu'ils ne sont pas encore trop nombreux dans votre région. Mais quand ils auront prospéré et qu'ils ne trouveront plus assez de gibier dans la campagne, ils viendront dans vos villes. Il paraît que les louves peuvent porter jusqu'à 13 petits. Bientôt, ils se multiplieront, et alors ils seront si féroces qu'ils ravageront le pays.
Si féroces?
Oui. On raconte qu'ils s'attaquent aux hommes, et surtout aux enfants, parce qu'ils aiment la chair tendre. Et comme ils se nourrissent de crapauds, leur morsure est venimeuse.
Vraiment? Et c'est donc pour ça que vous les chassez?
Non, confia l'étranger en souriant. Moi, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, c'est les pièces d'or.
Le jeune fermier acquiesça. À présent, cela ne lui semblait plus si étrange.
Les temps étaient durs. Il n'aurait pas refusé 1 ou 2 pièces d'or, lui non plus.
Comment vous les chassez? Demanda-t-il de plus en plus intéressé.
Tu n'as jamais entendu le barde Gas de la Vigne?
Non.
Pourtant, il vient souvent par vos régions, et il raconte la chasse dans ses poèmes. Il faudrait que tu puisses l'entendre. Nul ne raconte aussi bien la chasse au loup. La chasse collective, par battue, organisée par la louveterie. Mais aussi la chasse individuelle, celle que je pratique, moi.
Et alors, comment vous faites?
Tu es bien curieux.
C'est que je serais pas mécontent de gagner 1 ou 2 pièces d'or.
Je vois. Tout seul, je suis obligé d'utiliser des pièges, et parfois je reste à l'affût pendant des jours entiers. Tu n'as jamais chassé?
Non.
Alors tu risques d'avoir du mal. Mais si tu persévères, ouais, cela peut devenir intéressant. Tu sais, je ne connais rien d'aussi passionnant,
chuchota l'inconnu en adressant au jeune homme un clin d'œil. Le fermier se gratta la tête. Il regarda ses amis, à la table derrière lui, puis s'adressa de nouveau à l'étranger, d'une voix plus basse. Vous pourriez me montrer? Il vit alors le sourire du chasseur dans l'ombre de sa capuche.
Je chasse seul.
Mais je pourrais vous être utile, insista le jeune fermier. Je connais bien le coin.
L'inconnu posa ses 2 mains sur la table et resta immobile un long moment. On ne voyait pas ses yeux, mais de toute évidence, il dévisageait son interlocuteur. Finalement, il se décida.
D'accord, mais 2 mains seulement. Après, tu n'auras qu'à te débrouiller seul. Et ne compte pas sur moi pour partager la prime si on trouve un loup.
Non, bien sûr. Comment vous appelez-vous?
Demanda le jeune homme.
On m'appelle l'Arpenteur.
Enchanté. Je m'appelle Agéric.
Ils se serrèrent la main par-dessus la table. Un signe amical, qui visiblement n'était pas du goût des autres clients de l'auberge. Mais Agéric décida finalement de ne pas y faire attention. Il ne voyait qu'une chose, lui, les pièces d'or qu'il risquait de gagner. Le lendemain, ils partirent ensemble vers le cœur de la lande.
Fingin, j'ai retrouvé le druide Kiaran dans le monde de Jar, et il m'a donné de mauvaises nouvelles de Saïmina.
La nuit était tombée depuis longtemps, et le campement n'était éclairé que par la danse de flammes du grand feu qui brûlait encore au milieu. Le jeune druide, qui s'était isolé avec Aléa, en retrait des tentes, fronça les sourcils.
« Le conseil s'est séparé, » reprit Aléa. « 4 de tes frères ont quitté Saïmina pour rejoindre Amin, à Providence. »
Fingin poussa un long soupir.
Hernan aura tenu tout de même assez longtemps, murmura-t-il.
Je suis sûr qu'il savait. S'il m'a incité à partir, c'est parce qu'il savait, tout comme Aileen avant lui, que le conseil ne tiendrait pas et ne pourrait te soutenir.
Je suis désolée.
Ne t'inquiète pas, Aléa.
Le jeune druide ne la regardait plus vraiment. Les yeux fixés sur le sol, il réfléchissait, analysant sans doute la situation pour juger de sa gravité réelle. Il devait penser en druide, se souvenir de son enseignement pour comprendre cet événement en profondeur, ses causes, ses multiples conséquences possibles.
Aussi dramatique que cela puisse paraître, reprit-il, c'est peut-être finalement une chance pour Hernan. En se séparant des plus récalcitrants, il va sans doute pouvoir enfin convaincre le conseil que nous devons te soutenir.
J'en serai honorée, répondit Aléa, et elle était sincère.
Ce qui m'inquiète le plus en vérité, c'est ce qu'Amin fera avec les druides qui la rejoignent.
J'aimerais le savoir moi aussi. Je redoute l'instant où je la retrouverai. J'ai gardé d'elle un souvenir si doux, et tout me laisse penser qu'elle a changé, et pas forcément d'une manière qui saura me plaire. Nous verrons.
Oui, nous devons d'abord penser à ce qui se passe ici. La montagne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être un moyen. Tu te souviens comment nous avons utilisé le Saïman pour sonder le couloir souterrain à Ria ?
Demanda Fingin.
Bien sûr, j'avais vu Félim le faire, répondit la jeune fille en souriant.
Tu crois qu'à nous deux nous pourrions réunir suffisamment de Saïman pour aller sonder les cavernes de Gordraka sans avoir besoin d'y entrer ?
J'ai deviné que c'était ce à quoi tu pensais, tout à l'heure, et je n'ai cessé d'y réfléchir depuis. Mais franchement, la chose me paraît difficile. D'abord, on ne sait même pas si ces cavernes existent vraiment, et ensuite, on ne sait pas quelle longueur elles font. Dans quel sens elles vont ?
Fingin grimaça.
Oui, oui, je sais. Mais nous ne pourrons pas le savoir tant que nous n'aurons pas essayé.
Bien sûr, reconnut Aléa. Et nous gagnerions vraiment un temps précieux si nous parvenions à passer par là. Le problème, Fingin, c'est que nous ne savons pas non plus où se trouve l'entrée de ces cavernes, si vraiment il y en a.
Quelque chose me dit que Mjoln a sa petite idée là-dessus, mais qu'il ne veut pas nous le dire parce qu'il a trop peur que nous l'entraînions dedans.
Aléa acquiesça.
Nous n'avons pas le droit de l'y forcer. Mais nous pouvons lui proposer de ne pas venir avec nous, de passer par l'extérieur et de nous rejoindre plus tard.
Faire le trajet tout seul, il ne voudra jamais, rétorqua le druide. Tu le sais bien.
Oui, justement, c'est ce que j'espère.
Fingin éclata de rire.
Je vois. Allons lui parler, proposa-t-il.
Ils retournèrent tous les deux vers le campement et mirent du temps à retrouver le nain, qui, devinant sans doute qu'on allait essayer de le convaincre, était parti se cacher dans une tente des soldats de la terre et faisait semblant de dormir.
« Monsieur Abak !»
chuchota Fingin en se penchant au-dessus de lui.
« Nous aimerions vous parler. »
Le nain se retourna sur le ventre en grognant.
« Monsieur Abak !» insista Fingin.
« Non !»
rétorqua Mjoln.
Monsieur Abak ne parle plus aux druides, aux Samil Danak et à tous les illuminés du même acabit. Voilà. Laissez dormir le nain.
Fingin se retourna vers Aléa en haussant les épaules. La jeune fille s'approcha.
À quoi servait d'avoir gravi cette montagne si tu n'as pas aujourd'hui plus de courage qu'une fille de 14 ans ?
Demanda-t-elle d'un ton provocateur.
Une fille de 14 ans qui se prend pour le sauveur du monde ?
Répliqua-t-il.
Mjoln, tout ce qu'on veut savoir, c'est si tu sais où se trouve l'entrée des cavernes. Ensuite, si tu n'as pas envie d'y entrer, tu peux très bien faire le tour de la montagne et nous rejoindre à Tarnéa plus tard. Moi, j'ai besoin d'arriver là-bas au plus vite.
Voilà,
grommela le nain.
J'en étais sûr. Le chantage. Tu es vraiment la plus sournoise, ça oui, de toutes les bonnes femmes de l'île. Pas une seule naine n'arriverait à m'exaspérer autant que toi.
Pas une seule naine n'arriverait à te faire vivre autant d'aventures. Je croyais que tu aimais ça, l'aventure.
Pas dans les souterrains. J'ai horreur de ça, Tada. Tu le sais bien.
Alors rejoins-nous plus tard à Tarnéa, mais dis-nous au moins où se trouve l'entrée,
insista Aléa en secouant son amie, cachée sous sa couverture. Soudain le nain se retourna et d'un seul bond se mit debout. Ses énormes sourcils étaient si froncés qu'ils se touchaient presque. Le nez plissé, les yeux brillants, il avait l'air furieux. Il donna un coup de pied dans sa couverture pour s'en débarrasser, bouscula Aléa et sortit de la tente en grommelant. Fingin lança un regard médusé à la jeune fille.
« Alors ?»
s'écria le nain au dehors, voyant qu'elle ne le suivait pas.
« Tu veux la voir cette entrée, oui ou non ?»
Aléa secoua la tête et rejoignit le nain au dehors. Sans cesser de ronchonner, il se remit en marche, traversant le campement comme une flèche, sans s'arrêter, sans regarder les quelques soldats qui étaient encore debout. Jamais Aléa ne l'avait vu trotter aussi vite. Elle fit un signe pour rassurer Erwan, qui, alerté par le vacarme, était venu vérifier que tout allait bien. Le magistel la regarda s'éloigner, comprit que le nain faisait sans doute une scène, et retourna, rassuré, dans sa tente. Fingin hésita un instant, puis il rattrapa Aléa. Marchant juste derrière elle, il ne prononça pas une seule parole. Pourtant, la mauvaise humeur du nain était si enfantine qu'il avait presque envie de rire. Mais il ne voulait pas le vexer et décida qu'il valait mieux ne rien dire. Apparemment, Aléa, qui avait l'habitude, en était arrivée aux mêmes conclusions et suivait le cornemuseur sans se poser de questions. Malgré la nuit noire, Mjoln parvenait à trouver son chemin avec une aisance hors du commun. Dégageant les arbustes et les branchages d'un coup de pied, il se frayait un passage avec hargne et ne se retourna plus une seule fois. Cela faisait longtemps qu'il marchait ainsi, quand Aléa, n'y tenant plus, se décida à parler.
Mjoln, ce serait quand même plus simple si nous marchions ensemble. Tu ne vas pas faire la tête pendant tout le trajet.
Mais le nain ne répondit pas. Il poussa un petit sifflement de dépit, et la tête haute, continua de plus belle à travers les buissons. Aléa commençait à avoir froid, quand enfin elle vit le nain s'immobiliser devant elle. Elle s'arrêta, et Fingin arriva à son tour.
« Voilà, petite casse-pied! Elle est là, ta caverne !»
s'écria Mjoln en indiquant un énorme trou sous un rocher en hauteur. Aléa approcha et découvrit l'entrée avec stupéfaction.
Si proche! Et Mjoln avait su tout le long qu'ils étaient juste à côté. Ne le leur aurait-il jamais dit s'il ne le lui avait pas demandé? « Merci, cornemuseur !» dit-elle en inspectant le gouffre.
« Cornemuseur ?» « Cornemuseur ?»
répéta Mjoln d'un ton exaspéré.
« Si je te suivais pas partout comme un petit chien, je serais barde depuis bien longtemps !»«
Mjoln, savez-vous qui est habilité à nommer les bardes ?» intervint Fingin en s'approchant du nain. Celui-ci leva la tête, hésita un instant, puis répondit.
« C'est satané druide !»«
Exactement, » répliqua Fingin. « Et vous savez aussi que moi, justement... » Je suis un satané druide.
Et alors?
Alors je pourrais peut-être faire de vous un barde, non? Mjoln fronça les sourcils.
Et vous allez me dire que pour ça, je dois entrer là-dedans avec vous, c'est ça?
Je risque d'avoir du mal à vous enseigner les secrets des bardes si vous nous abandonnez. Mjoln soupira. Et n'oubliez pas non plus, reprit Fingin, qui sentait qu'il était en train de gagner la partie. Que la valeur d'un barde se mesure au nombre d'histoires qu'il peut raconter. Hors des bardes qui peuvent raconter qu'ils sont passés dans la caverne des dragons, personnellement, je n'en connais pas un seul. Le nain fit la moue. Son regard faisait des allers et retours entre Fingin et Aléa. Il savait qu'il lui avait tendu un piège.
Vous êtes de beaux parleurs tous les deux.
L'aventure mérite parfois quelques sacrifices. La caverne des dragons. C'est tout de même une sacrée aventure, non ? Mjoln peina à masquer le sourire qui naissait au coin de ses lèvres.
C'est vrai que ça ferait une belle histoire,
avoua-t-il en croisant les bras.
De toute façon, intervint Aléa, ne nous emportons pas. Nous ne savons même pas s'il est vraiment possible d'y aller dans ces cavernes.
Allons vérifier ça tout de suite, proposa Fingin.